Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous. Déjà, un grand merci à Yvon pour m'inviter. C'est vraiment un immense honneur de venir ici dans le cadre de la série de cours que tu donnes. J'ai intitulé l'exposé « Scientific Machine Learning for Industrial Design ». Alors, c'est vrai que c'est une nomenclature qui est un peu, on va dire, plus contemporaine, puisque « Scientific Machine Learning » va regrouper peut-être des méthodes récente par rapport à tout ce que Yvon a présenté, mais j'ai quand même choisi de développer des axes un peu plus anciens dans ma recherche qui rebondissent exactement sur ce premier cours, donc on va pouvoir faire beaucoup de liens dans ce qui a été dit, et j'ouvrirai aussi sur des méthodes, des travaux un peu plus récents. Donc déjà, pour introduire Safran, donc, je pense que tout le monde connaît, c'est un industriel français, donc c'est un groupe français, même s'il est multinational, qui agit dans le domaine de la défense, l'aéronautique, l'espace. Donc on voit principalement, c'est des moteurs d'avions, des équipements de défense et d'autres équipements, des aéronefs, par exemple les trains d'atterrissage. Donc moi je travaille à Safrantech, qui est un centre de recherche dans le plateau de Saclay, qui est vraiment un super campus, comme vous voyez sur l'image là. Et en particulier, je travaille dans le département sciences et techniques du numérique. Donc je vais faire une petite introduction. Moi, je pense que je vais aller vite puisque en fait toutes les bases sont déjà posées par le cours. Dans l'industrie, Yvon l'a dit rapidement pendant le cours, si on veut prendre une décision, il faut pouvoir aller vite. Souvent les problèmes coûtent très cher, la matrice A est très grande, enfin pas celle-là mais celle d'avant. La matrice A, éléments finis par exemple, qu'on obtient en appliquant la méthode des éléments finis, est vraiment très grande, et dans l'industrie il faut être capable de prendre des décisions rapidement. Donc en fait ce qu'on a, c'est un problème paramétré, donc là c'est écrit de façon très abstraite, donc on a une sortie en fonction des entrées. Et donc l'opérateur, j'ai appelé ça complexe dans le sens où il prend beaucoup de temps à être évalué. Donc l'évaluation de F, c'est la résolution du problème qu'on a vu ce matin. Et donc souvent, les contextes qu'on a sont des contextes qu'on appelle many queries, dans le sens où on ne veut pas faire une seule évaluation, mais on veut résoudre pour plein de valeurs de mu différentes dans plusieurs contextes qui nécessitent ce contexte-là. Par exemple, si on veut faire de l'exploration, de l'optimisation, de la quantification d'incertitude ou de la calibration. Et donc là, je donne un exemple vraiment très simple. Donc on a des paramètres de forme pour une aube. Et si on veut calculer la finesse, qui est donc le livre divisé par le drag, on doit résoudre un problème 3D, donc CFD, donc c'est un problème fluide, qui peut être 3D et très coûteux à résoudre. Donc si on veut mettre en œuvre un algo d'optimisation qui nécessite d'évaluer cette solution un nombre très important de fois, ben ça devient impossible à utiliser en pratique parce que les temps de retour sont beaucoup trop élevés pour avoir un intérêt industriel efficace. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le grand F par un petit f, donc qui est beaucoup plus rapide à évaluer, ben c'est les techniques de construction, de réduction de complexité. Et donc ce qu'on espère, c'est que voilà, le problème léger soit équivalent au problème lourd, de sorte à ce qu'on puisse remplacer la brique coûteuse par une brique légère et mettre en œuvre tous ces algos dans ces contextes many queries pour avoir un temps de retour qui est exploitable en pratique. Donc là, je fais juste un petit aparté pour dire que lorsqu'on a des entrées de faible dimension et des sorties de faible dimension, et qui ont tout le temps la même dimension, on est dans un contexte d'apprentissage de problèmes tabulaires. Et pour ça, il y a toute une littérature en statistique qui existe, mais qui ne vont pas être le sujet de cette présentation ni le sujet de ce cours-là. Donc aussi, je dis qu'ici, que apprendre, c'est en fait extraire une tendance à partir des données. Donc on commence par générer un plan d'expérience, ou alors vous allez voir, Yvon, il fait des choses beaucoup plus intelligentes après. Donc plutôt que de faire un plan d'expérience a priori, on peut sélectionner les valeurs de mu de façon itérative et intelligente. Ensuite, on entraîne un modèle d'approximation et ensuite, on exploite ce modèle d'approximation dans des tâches mini-queries, comme on a vu. Donc nous, à Safrantech, donc, il y a une plateforme qui est développée par des collègues qui met en œuvre tout ce genre d'algo dans des contextes tabulaires. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt d'apprendre des problèmes physiques en entier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la physique, elle est modélisée en général par un problème aux valeurs propres. Et donc on a des objets qui sont complexes et en grande dimension. Donc on a les objets qu'on manipule, c'est des maillages, des conditions limites, des champs, des modèles matériaux. Donc les solutions sont calculées en résolvant des équations en dérivées partielles, c'est ce qui a été vu là. Donc nous, on a des données qui sont hétérogènes, en grande dimension et même potentiellement en grande dimension qui varient en fonction de mu. Donc là je donne un exemple, c'est une base de données open source qu'on reverra après dans la présentation. où nos données, ce sont les entrées, c'est des maillages dont la taille varie, et ensuite on a des scalaires, donc ça se passe plutôt bien, et les sorties qui nous intéressent, c'est des champs supportés par ce maillage de taille variable. Donc là, je fais une petite distinction entre quelles sont en fait les données nécessaires à construire la mise en données pour résoudre le problème physique complexe et les inputs-outputs dans le problème d'apprentissage. C'est un peu différent parce que dans un problème d'apprentissage, en fait, les inputs, c'est un sous-ensemble de la mise en données physique nécessaire à résoudre le problème, et les outputs, c'est un sous-ensemble. C'est uniquement ce qui nous intéresse pour prendre une décision opérationnelle industrielle. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, en fait, le modèle de turbulence, on doit s'en donner un pour résoudre Navier-Stokes dans les approximations Rance, mais finalement, ce n'est pas une variabilité de notre problème. Du coup, ce n'est pas dans les inputs du problème d'apprentissage, puisque ça va tout le temps être le même modèle de turbulence, c'est dans le contexte de notre problème. Ensuite, pourquoi on ne se ramène pas tout le temps à un problème tabulaire ? Finalement, on a vu tout à l'heure que si on a des paramètres de forme en entrée et quelques scalaires en sortie, ben pourquoi ne pas rester dans ce contexte qui est très simple ? Ben, moi, je vois deux intérêts importants. Le premier, c'est qu'on veut pouvoir changer, par exemple, la forme en dehors de la paramétrisation qu'on s'est donnée a priori, une fois que le modèle est entraîné. Et aussi, on veut pouvoir se donner l'opportunité de changer la quantité d'intérêt. Donc, on a entraîné un premier modèle, et puis on se rend compte que pour des raisons opérationnelles, finalement, ce n'est pas la finesse qui nous intéresse, mais l'intégrale du champ de pression calculée différemment autour de l'airfoil. Eh bien, si notre modèle est capable de prédire les champs de pression en entier, on peut changer la quantité d'intérêt sans réentraîner le modèle. Voilà, donc là, je vais commencer par parler de la réduction de modèle physique. Donc, en fait, c'est vraiment le contexte que Yvon a développé ici. La pièce qui nous intéresse, c'est... donc là, on voit un moteur d'avion. C'est l'aube de turbine haute pression. Donc, c'est une pièce qui est située juste après la chambre de combustion. Donc, l'air rentre de la gauche vers la droite. Donc, vu que c'est une pièce qui a un effet centrifuge très important, donc en fait, c'est des pièces qui voient donc qui sont des alliages monocristallins, et en fait, qui subissent un écoulement extrêmement chaud, et en fait, c'est le couplage entre les effets centrifuges et l'écoulement d'air chaud qui arrive qui fait que c'est des pièces qui sont, alors je vais pas dire qu'ils sont fragiles, mais dont on doit calculer la durée de vie de façon précise, avec des enjeux très importants pour la durabilité du moteur. Donc en général, la température de l'air qui arrive sur l'aube est supérieure à la température de fusion des alliages monocristallins, et il y a plein d'artifices qui sont utilisés pour faire en sorte que l'aube ne fonde pas. Donc on a des circuits de refroidissement interne, il y a de l'air qui est injecté dans le pied, qui fait un circuit et qui ressort par des trous. Et donc cette circulation d'air fait un petit film de protection. Il y a aussi des barrières thermiques en céramique qui sont construites. Donc, ces travaux sont en collaboration avec Nisrin Nakari à Safrantech. Donc là, je repose le contexte vraiment principal que Yvon a déjà développé. Donc on a entendu, mais partie offline, partie online. Donc en fait, ces méthodes d'apprentissage se décomposent en deux grandes étapes. La première étape offline, c'est, comme disait Yvon, c'était il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc c'est la partie où on fait l'apprentissage. Et ensuite, la partie online, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On exploite cette approximation pour approcher les équations de la physique de façon très rapide. Donc la phase d'apprentissage, en fait, il y a j'identifie trois étapes. Premièrement, la génération de données, donc c'est le calcul des snapshots, donc des U delta mu. Ensuite, la compression de données, donc le calcul de la base réduite. Donc la base réduite, c'était la matrice... c'est les vecteurs propres d'état. Et ensuite, c'est un truc que j'appelle compression des opérateurs. Et ça, c'est la petite transition que Yvon a faite très rapidement. C'est pour calculer ce A de zeta i, zeta j. En fait, ce n'est pas si simple que ça, puisque les vecteurs sont de grande taille, n calligraphié, n delta. Et donc, pour évaluer l'opérateur A sur ces vecteurs, dans le cas général, donc le cas où on n'est pas décomposable, il faut travailler. Et donc ça, c'est ce que je mets dans cette compression des opérateurs, parce que c'est ce qui nous permet d'approcher le calcul de l'opérateur. Donc c'est ce que je dis, c'est tous les traitements additionnels pour garantir l'efficacité de la construction du problème réduit. Donc si on arrive à garantir l'efficacité de la construction, la résolution, elle est rapide, c'est en grand N puissance 3, mais grand N est tout petit, donc on peut y aller. Et donc dans l'étape d'exploitation, parce que toute cette classe de méthodes-là, mais en tout cas, moi, ce que je fais, c'est des méthodes a posteriori. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans la méthode online, on résout les équations de la physique sur une base réduite. C'est-à-dire qu'on injecte vraiment la connaissance de l'EDP, des équations dérivées partielles. Ce n'est pas des méthodes black box d'approximation statistique. Et donc, le coût additionnel qu'on fait, parce que dans l'industrie, il faut être... on est pragmatique, hein, donc il faut que si on paye quelque chose, il faut que ce soit contrebalancé par un intérêt. Donc l'intérêt, c'est l'utilisation intensive dans la phase d'exploitation de ce modèle-là, c'est le contexte mini-queries qu'on a vu avant, c'est le fait de d'avoir besoin de calculer U-mu pour beaucoup de valeurs de mu. Alors là, j'ai repris ces slides que j'avais faites il y a longtemps. Ah, d'ailleurs, c'est toujours écrit 2021, j'ai oublié de mettre à jour. Donc pour vous montrer qu'en fait, Yvon Madé apparaît un peu partout hein, dans cette bibliographie-là, sur toutes ces familles de méthodes d'approximation. Alors j'ai l'impression que je crois que le premier papier, c'est celui-là de 2000, mais je ne sais pas s'il y en a eu avant. Bon. Il y en a avant, bon, j'en ai oublié. En tout cas, pour la méthode des bases réduites, c'est la méthode qui permet de sélectionner les mu de façon intelligente pour ne pas avoir à construire cette matrice A de time grand M, croix grand M, donc ne pas avoir à choisir a priori les mu utilisées pour construire les vecteurs zeta. Cette méthode que vous verrez plus tard, c'est la méthode des bases réduites. Et en fait, il y a toute une classe de méthodes beaucoup plus anciennes qui est la POD, donc c'est directement la SVD qu'on a vue ici. Moi j'utilise celle-là même si j'ai fait beaucoup de bases réduites pendant ma thèse hein, puisqu'en fait c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'avoir des estimateurs d'erreurs a posteriori qu'on est capable de calculer en complexité indépendante de n calligraphié. Donc voilà. Mais le défaut, comme disait Yvon, c'est qu'il faut être capable en fait a priori d'avoir les bons mu i sur lesquels on fait ces premières résolutions de S delta. Bon, en pratique, dans l'industrie, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un plan d'expérience. C'est une façon de déterminer ces mu-i de sorte à ce qu'ils soient les mieux répartis dans l'espace paramétrique, donc dans l'espace des mu, de sorte à ce qu'on espère qu'ils représentent bien la variété qui était dessinée tout à l'heure. Mais ça, c'est toujours voilà, c'est un espoir, quoi. En tout cas, c'est plus facile à mettre en œuvre. Sinon, sur ce que disait Yvon, là, ce que j'ai appelé la compression des opérateurs, le fait d'avoir à calculer A de zeta i, zeta j de façon rapide, en fait, il y a eu une grosse littérature hein, qui a commencé par Yvon, je pense, en 2024. Et il y a eu plein d'autres méthodes. Alors, une qui a bien marché, c'est celle de David Ricklink en 2005, qui a tellement bien marché que maintenant, en fait, toute cette classe de méthodes, on appelle hyper-réduction, qui est le nom que David a donné à sa méthode à lui à l'époque. Donc, une autre méthode qui a vraiment très, très bien marché, c'est par Charbel Farhat à Stanford. Donc je mentionne un collègue de chez nous, un Julien Cortial, hein, qui travaille à Safrantech et qui était aussi à l'origine de ces méthodes qui ont très bien marché. Et donc moi j'utilise l'ECM, qui est une variante très proche de l'ECSW, qui consiste à remplacer les quadratures par des quadratures réduites, mais je détaillerai juste après. Pour la méthode des bases réduites, bon, il y a une notion de certification que vous verrez. Et aussi Yvon a présenté l'épaisseur de Kolmogorov et en fait dans les cas favorables où l'épaisseur décroît rapidement, ça se passe bien, mais dans les cas où l'épaisseur décroît lentement et que c'est quand même des problèmes qu'on veut traiter, dans ce cas-là il faut s'attaquer à la réducibilité, c'est-à-dire à la capacité à la méthode de réduction de complexité à effectivement pouvoir réduire la dimension. Et pour ça, il y a des cas connus qui sont pathologiques, hein, donc comme les cas de translation ou des cas de plus génériques où l'épaisseur de Kolmogorov décroît de façon plus lentement. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Enfin, il y a aussi des notions de non-intrusivité. Alors ça, c'est très important pour l'industrie. C'est d'être capable, en fait, on ne va pas dire aux ingénieurs dans les bureaux d'études, vous allez remplacer tous vos codes commerciaux. Voilà, le groupe Safran... un gros contrat avec ANSYS, par exemple, il n'est pas question de remplacer les solveurs ANSYS puisqu'ils sont déjà certifiés dans tous les process. Donc, est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces méthodes de façon à ce que les ingénieurs dans les bureaux d'études n'aient pas à changer leur logiciel commercial ? Ensuite, il y a des travaux sur la réduction pour les problèmes de très grande taille. Donc, ça, c'est aussi, j'ai utilisé ce qui est fait dans ces travaux-là pour être capable de réduire des problèmes de très grande taille. Et ensuite, ça, on verra un peu après, la variation géométrique. Donc, Yvon en a parlé dans le cas où il y avait le changement de variable par rapport aux intégrales sur oméga. Donc, ça, c'est une classe de difficulté à part, j'estime, et les méthodes à mettre en œuvre sont un peu plus compliquées. Voilà, donc maintenant je reviens sur qu'est-ce que moi j'ai fait à Safrantech sur cette classe de méthode-là. Ben, pour les trois étapes, donc la génération de données, ben, voilà, la contrainte c'est que moi je veux pouvoir utiliser un code commercial pour être non intrusif. La méthode de compression de données, ben, j'utilise la snapshot POD, alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est parce que c'est très facile à utiliser. Voilà, dans l'industrie, des fois, on essaie d'être très pragmatique. Hein, la facilité de mise en œuvre, c'est un argument important. Et aussi, en fait, c'est très facile de le paralléliser en mémoire distribuée, donc c'est très scalable. Et pour la méthode d'opération de compression des opérateurs, ben, j'ai pris l'empirical cubature méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque elle permet, c'est aussi très facile à paralléliser. Et moi, j'ai trouvé qu'en pratique, ça marche très bien aussi. Donc là, on donne un exemple. Hein, on voit que pour une nob de turbine, on devine la silhouette d'une nob de turbine. En fait, on a besoin de 300 fois moins de points de quadrature que la quadrature haute fidélité. Voilà, donc il faut que tout soit efficace dans le sens où il faut que la complexité du modèle réduit pour approcher l'opérateur A sur la base réduite et résoudre le problème réduit soit en complexité indépendante de n calligraphie delta. Donc l'empirical cubature méthode, donc là on voit que c'est appliqué sur un cas de mécanique des structures non linéaires. Donc je me suis juste intéressé ici au calcul de l'énergie interne réduite parce qu'elle est appliquée directement sur la base POD que j'ai appelée psi ici. Donc le terme d'énergie interne, c'est le tenseur des contraintes doublement contracté avec le tenseur des déplacements, des déformations, pardon, pris sur la base POD. Et donc ce qu'on veut, c'est que le terme de quadrature d'intégration de cette énergie interne, ce qui est ici, écrit ici, hein, donc la quadrature complète, l'intégrale de ce vecteur-là, soit la plus rapide possible. Et donc dans cette méthode d'empirical cubature méthode, on veut remplacer le schéma de quadrature qui contient des dizaines de millions de points en des schémas beaucoup plus petits. Donc pour ça, ce qu'on fait, donc oméga, c'est le vecteur des poids de la quadrature, mais on essaie de trouver une approximation de oméga qui minimise la norme zéro, donc c'est-à-dire c'est le nombre des éléments non zéro, non nuls dans ce vecteur de poids de quadrature. Donc en gros, on veut une formule de quadrature qui a le moins de poids possible, c'est ça que ça veut dire, dans un espace admissible. Et l'espace admissible, en fait, c'est l'ensemble des quadratures l'approximation par rapport à la quadrature complète en nombre relatif et à epsilon près. Donc on se fixe un epsilon de précision et on veut trouver des poids de quadrature qui approchent la quadrature complète à epsilon près, mais avec des poids positifs. Et les poids positifs, parce que les quadratures en général, elles peuvent avoir des poids négatifs, les quadratures complètes, le fait d'avoir des poids positifs, en fait, ça garantit la stabilité numérique dans le sens où le modèle réduit, il va hériter des propriétés spectrales du modèle haute fidélité. Donc quand on est sur des cas elliptiques coercifs, mais en fait, ces poids positifs permettent d'hériter de ces propriétés de coercivité directement au niveau réduit, même si on approxime le calcul de A de zeta i de zeta j. Donc là, pour ça, il y a des algos qui sont issus de la communauté du signal processing. Hein, donc on a des qui s'appellent par exemple non-negative orthogonal matching poursuite. Donc c'est des algorithmes Glouton. Donc je pense que vous verrez les algorithmes Glouton plus tard. Donc c'est qui permettent de construire de façon itérative des approximations de ce problème, parce que ce problème il est NP difficile. On ne peut pas avoir de façon tractable de résoudre ce problème-là. Donc moi là j'ai utilisé une variante de 2015 qui est rapide, hein, donc c'est le fast non-negative orthogonal pursuit matching algorithm. Et donc après, en fait, quand on est en mécanique des structures, on résout ce qu'on appelle les quantités primales, hein, donc c'est le déplacement, la solution du problème ici c'est le déplacement, le U. Mais en fait on s'intéresse souvent, par exemple pour calculer la durée de vie, à des quantités qu'on appelle duales, donc qui sont exprimées naturellement au point d'intégration du maillage, enfin ou au point de quadrature, hein, c'est la même chose. Et donc pour ça, il faut être capable de reconstruire les données d'intérêt aux quantités duales. Donc par exemple, la plasticité cumulée, ça c'est très important, ou les contraintes. Et pour ça, on utilise des méthodes de reconstruction qui s'appellent des gaps POD, qu'on peut faire localement. Et ce qu'on a montré, c'est que si on rajoute, ces algos-là, ils sélectionnent certains points de quadrature. Donc on peut mettre en œuvre des méthodes de QDEIM, vous verrez le EIM plus tard. En fait, ce qu'on a montré, c'est que si on rajoute les points qui sont choisis par l'empirical cubiture méthode, on les rajoute à ceux qui sont sélectionnés par QDEIM dans la GAPI-POD, mais en fait, on garantit que la reconstruction est tout le temps bien posée. Donc ça, c'était très important, notamment parce que la plasticité cumulée, c'est des quantités qui sont très irrégulières, elles sont zéro partout, sauf dans les zones, elles sont non nulles uniquement dans les zones où la plasticité est activée, donc c'est assez discontinu. Voilà, donc là, on l'a mise en œuvre sur... Donc ça, c'est une vraie aube safran. Donc vous voyez que je ne montre pas l'intérieur. Je n'ai pas le droit de montrer l'intérieur. C'est des circuits de refroidissement complexes. Et donc là, ce qu'on a mis en œuvre, c'est un modèle réduit dans un cas d'extrapolation cyclique où là, on a utilisé le modèle haute fidélité, donc le calcul de S delta uniquement pour calculer un cycle de sollicitation. Donc les aubes, on lui fait soumettre un cycle de sollicitation pour voir comment le matériau va évoluer. Et ensuite, après, on a construit le modèle réduit, comme on a dit avant, et on l'a utilisé sur les 99 cycles suivants pour calculer ces courbes d'extrapolation cyclique. Et en fait, c'est le post-traitement d'un cycle stabilisé qui permet d'en déduire la durée de vie de l'aube de turbine. Et là, quand on a montré ça aux ingénieurs dans les bureaux d'études, ils étaient très contents parce qu'en fait, eux, ce qu'ils regardent, par exemple, c'est l'accumulation de cette quantité, donc là c'est la plus grande valeur propre du tenseur des contraintes, mais uniquement dans les zones où le critère de von Mises est suffisamment large. Et donc là c'est au maximum de la rotation au centième cycle, et ils voient que en fait, ça a entre guillemets allumé exactement les mêmes zones qui correspondent au retournement de ce qu'ils appellent des trombones, donc c'est les circuits de refroidissement à l'intérieur qui font des allers-retours comme ça. Et en fait, le fait d'avoir allumé les mêmes zones entre le modèle réduit et le modèle haute fidélité, ça les a mis en confiance sur le fait que ces méthodes sont prometteuses en termes de précision pour regarder les phénomènes qui leur intéressent. Voilà, donc là, ce qui est important, c'est que les temps de calcul de cette méthode-là, en prenant en compte toute la phase offline aussi, parce que comme je disais, on est un peu pragmatique, on regarde le coût de la phase offline, c'est aussi quelque chose qu'on veut pouvoir contrôler. Donc là c'est compatible à ce que j'appelle overnight return time, donc l'ingénieur il peut partir le soir, lancer le calcul, le lendemain matin il a la solution, alors que là ça prenait plusieurs semaines voire deux mois, ce qui était vraiment très problématique en pratique, puisque quand ils conçoivent ce genre d'aube de turbine haute pression, ils ont des méthodes de conception qui n'utilisent pas ces modélisations haute fidélité. Ce qu'ils font, c'est que voilà, convergent avec des méthodes très approximatives vers un certain design, et après ils commencent à lancer les étapes de fabrication et ils lancent le gros calcul en espérant que ça va bien marcher, quoi. Mais il y a des cas où ils se rendent compte qu'en lançant le gros calcul, finalement la durée de vie c'est pas bon, donc toutes les étapes de fabrication qui avaient été lancées doivent être recommencées, quoi. Donc le fait de pouvoir accélérer fortement les approximations de ces problèmes-là dans des modélisations en grande dimension, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, donc là, il y avait un autre problème, une autre application, donc c'est pour des problèmes de thermique transitoire non linéaire. Et donc là, on avait plusieurs termes non linéaires, donc on avait, donc j'ai appliqué la même méthode, mais sur des équations différentes. Donc là, j'ai appliqué les formules de quadrature réduite pour le terme de radiation, pour le terme de capacité et de conductivité. Donc le terme de radiation, c'est en T puissance 4, donc c'est très fortement non linéaire. Et donc là, je ne vais pas tout détailler, mais en gros, on a pu mettre en œuvre le même type de méthode. Donc là, c'est pour du transitoire en thermique, avec une différence une erreur sur la configuration de test qui était inférieure à ce qu'ils espéraient. Donc là, ça a pu marcher là aussi. Voilà. Donc maintenant, tout ce qu'on a présenté dans le cours d'aujourd'hui et jusqu'à présent. Donc c'est ce qu'on appelle des compressions de données linéaires, hein. Donc la POD, la SVD qui a été introduite et la POD que j'ai utilisée avant, c'est des méthodes de compression de données linéaires dans le sens où la variété des solutions, ce que Yvon a dessiné tout à l'heure, est approchée par un sous-espace vectoriel, hein. C'était par une droite là, moi j'ai fait une boîte mais c'est la même idée, et donc l'idée c'est que lorsque l'épaisseur de Kolmogorov décroît suffisamment rapidement, en fait on peut se contenter de ces compression de données linéaires, et on voit qu'une seule base réduite permet d'approcher toute la variété en étant petite de façon satisfaisante. Mais les cas où l'épaisseur de Kolmogorov décroît lentement, donc on a vu la formule, elle est toujours là, hein, donc c'est en fait c'est la pire erreur d'approximation parmi les éléments de la variété M, faite par le meilleur sous-espace vectoriel de dimension grand N. C'est la même notation que Yvon, grand N. Et voilà, donc c'est dn, donc c'est l'épaisseur de Kolmogorov de la variété des solutions M. Et on voit que l'erreur de projection, en fait, ça, c'est une projection orthogonale, hein, puisque c'est l'inf de, par rapport à une norme induite par le produit scalaire canonique dans l'espace de Hilbert H, hein, donc c'est une projection orthogonale. Et donc cette épaisseur de Kolmogorov-là, si elle décroît lentement, ici c'est un cas où ça décroît lentement, alors ça c'est pas exactement l'épaisseur de Kolmogorov, puisque c'est impossible à connaître en pratique, c'est plutôt les valeurs propres de la matrice de Gram qu'on a vu juste là. Donc si c'est lent, ben, en fait on est dans un cas où la variété, en fait, elle est très, entre guillemets, tordue, elle va contenir beaucoup de directions indépendantes, et elle ne pourra pas être approchée de façon satisfaisante avec une base réduite de taille faible. Donc Yvon a dit que la complexité, c'est en n puissance 3. Et en fait, si n est de l'ordre de quelques centaines, ben en fait, n puissance 3 va très vite dépasser le n calligraphié carré, de sorte à ce que ça va devenir plus coûteux que de résoudre le problème haute fidélité. Donc c'est en fait, c'est pas un nice to have, hein, d'avoir une petite base réduite, c'est indispensable. On ne peut pas faire autrement pour mettre en œuvre ces méthodes-là, que d'avoir des bases réduites de petite taille. Donc là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ça ne marche pas, puisque en fait, on ne peut pas approcher toute la variété dans son ensemble de façon satisfaisante. Ouais, c'est ce que j'écris là, donc ce serait beaucoup trop lent. Donc ce qu'on a fait dans la thèse de Thomas Daniel, donc, qui a soutenu en 2021 et qui a eu le prix de thèse à Mies, donc c'est... C'est un prix de thèse donné par qui peut être attribué à des étudiants qui font des maths en lien avec l'industrie. Donc Thomas était en thèse avec nous à Safrantech. C'est qu'on a fait en fait une compression de données qui est linéaire par morceau. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà dans la littérature, mais je vais vous expliquer ce qu'on a fait précisément dans cette thèse. Donc en fait, ce qu'on se dit, c'est que finalement, la variété, pourquoi pas l'approcher localement par des petits sous-espaces vectoriels, de sorte à ce qu'on reste en dimension restreinte, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la variété des solutions. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est être capable de construire ce partitionnement de la variété des solutions. Donc supposons qu'on connaisse un classifieur parfait, c'est-à-dire qu'on arrive avec un nouveau paramètre. Donc ici, le paramètre, c'est le chargement thermique de lobe de turbine, qui est en grande dimension. Si on arrive avec un nouveau paramètre, est-ce qu'on est capable d'avoir un classifieur qui nous donne le bon modèle réduit local à utiliser, de sorte à être précis exactement à l'endroit de la variété des solutions où on veut être? Mais le problème, c'est que, en fait, vu que le critère de sélection du bon modèle réduit dépend directement de la solution elle-même. Donc en fait, si on se dit, je vais calculer la solution avec le modèle haute fidélité pour savoir où je me trouve sur la variété pour choisir le bon modèle pour approcher la solution, en fait, ça ne sert à rien puisqu'on a calculé la solution pour pouvoir le dire. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de remplacer ce classifieur sans avoir à calculer la solution. Donc c'est ce qu'on a proposé, qu'on a appelé RomNet. Et donc ça consiste à faire un clustering de la variété des solutions, ça ce qui est classique, et après construire un problème de classification qui, uniquement à partir des entrées, va nous donner le bon modèle réduit local. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà, hein, qui existaient déjà. La seule différence, enfin, en tout cas, ce qui existait avant la thèse de Thomas, c'est que la classification, enfin, le clustering dans l'espace, dans la variété des solutions, se fait avec la distance L2. Il n'y avait pas trop de réflexion sur quelle est la bonne distance utilisée pour faire le clustering. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que utiliser la distance L2 pour faire le clustering, en fait, ne donne pas nécessairement des sous-espaces vectoriels de dimension faible. Et là, je donne un exemple vraiment très simple. Imaginons qu'on a trois vecteurs, donc U, V et lambda U avec lambda très grand, de sorte à ce que si on fait un clustering de ces trois vecteurs avec la distance L2, finalement, on va avoir un premier cluster qui va prendre la grande solution et un autre cluster qui va prendre les petites solutions. Mais finalement, on n'a rien gagné, puisque si on avait fait une base globale, on aurait eu une base de dimension 2. Et là, on a un cluster qui a deux dimensions. Du coup, on ne gagne strictement rien à faire un clustering. Alors que si on s'était intéressé en fait, à la clusteriser en fonction de la direction 2 à 2 entre les différents vecteurs, on aurait eu un cluster qui regroupe U et lambda U, et un cluster qui regroupe V. Donc on aurait eu deux bases réduites locales de dimension 1, alors que l'espace ambiant était de dimension 2, on arrive à gagner quelque chose. Donc ça, c'est vraiment l'intuition derrière ce qui a été fait dans cette thèse, c'est de trouver un algo de clusterisation qui est basé sur la dissimilarité qui prend en compte les angles entre les snapshots plutôt que de prendre leur magnitude. Donc là, on a proposé une définition qu'on a appelée donc une partition optimale pour des dictionnaires ROM. Donc KN, KN ou K, c'est le nombre, le nombre d'éléments dans la partition. Et N, c'est la dimension des bases réduites locales qu'on va construire. Donc on cherche à construire K bases locales de taille N. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire, c'est à définir un objet qui essaie de trouver l'infimum parmi toutes les partitions de M de taille K, qui minimise en fait la somme de cet objet-là, qui est en fait une somme pondérée par le volume des partitions d'une épaisseur de Kolmogorov qu'on a normalisée. Cette épaisseur de Kolmogorov normalisée, on peut l'écrire aussi comme ça, en faisant intervenir une espérance. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le cas n égale 1, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, cette distance qui apparaît ici, enfin, c'est une dissimilarité, et c'est exactement une dissimilarité sinus. Parce que si on écrit la définition de la dissimilarité sinus, elle s'écrit 1 moins le produit scalaire divisé par les normes, et en fait, on retrouve l'infimum qu'on avait vu tout à l'heure dans la définition de l'épaisseur, c'est écrit là, de l'épaisseur de Kolmogorov, sauf que là, c'est divisé par la norme de U, c'est pour ça qu'on l'a appelé normalisé. Et en fait, ce qui est super intéressant en pratique, c'est qu'on a montré que en fait, pour le cas n égale 1, ces partitions optimales sont exactement les minimiseurs de la fonction de coût d'un algorithme de clustering camédoïde avec la dissimilarité sinus. Et là, on peut faire le parallèle en écrivant en fait, la définition de notre objet pour le n égale 1 et la définition de la fonction coût d'un algorithme de camédoïde, de clustering camédoïde. Et on voit qu'on peut faire le matching un à un de tous les termes. Donc là, on a la probabilité d'appartenir à l'élément PK, en fait, c'est le rapport des mesures par rapport à la mesure de la variété. Donc on est sur la bonne mesure. Et en fait, il suffit de remplacer, de choisir pour la distance delta la dissimilarité sinus pour en fait avoir un algorithme qui est utilisable directement en pratique et qui nous permet d'obtenir un optimal d'un objet qui est quand même super théorique. Donc ça, c'était super intéressant d'arriver à ce résultat, je pense. Et donc là, on a plusieurs applications numériques où on peut voir. Donc là, il n'y a pas de résolution de DP, c'est juste voir est-ce que ce clustering d'une variété en utilisant la dissimilarité sinus apporte quelque chose par rapport à la distance L2. Donc là, on a pris un cas très simple de transport optimal 2D. Hein. Donc les cas de transport, ils sont connus pour être très mal réductibles, hein, donc décroissance des épaisseurs de Kolmogorov très lentes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a volontairement pris deux amplitudes très différentes, 0, 1 et 1, et plusieurs positions le long de l'axe vertical, et on a un transport de la gauche vers la droite. Donc ce qu'on a fait sur la droite ici, là, c'est que ce qu'on voit, c'est une représentation qui s'appelle MDS pour Multidimensional Scaling. En fait, c'est la meilleure représentation en 2D d'objets qui sont en dimension supérieure. Et donc là, c'est chaque point correspond à un snapshot. Et en fait, ce que la MDS fait, c'est qu'elle essaie de répartir dans le plan 2D les points de sorte à ce que leur distance relative 2 à 2 sur le plan en 2D soit la plus fidèle possible par rapport à une matrice de dissimilarité qu'on va lui donner. Une matrice de dissimilarité, c'est une dissimilarité 2 à 2 des points dans des espaces qui sont en dimension plus grande. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les snapshots, on a calculé la dissimilarité L2, voilà, c'est une distance L2, et là, la dissimilarité sinus, on a fait la MDS, et on fait un clustering par rapport le clustering qu'on a vu tout à l'heure, camédoïde, mais avec la distance L2 et la dissimilarité sinus. Et en fait, la MDS, les couleurs sont les différents clusters, on voit que avec la distance L2, ce qui se passe, c'est que tous les snapshots qui ont une petite magnitude, 0,1, ils sont tous regroupés au milieu, et tous les snapshots qui ont une taille plus grande, une magnitude plus grande, ils sont dispersés loin de ce cluster central. Donc lorsqu'on fait un clustering avec cette distance L2, en fait, on aura un cluster qui va contenir toutes les petites solutions, et les autres clusters vont se partager les grandes solutions. Et ça, c'est très mauvais, parce que par construction, en fait, ce qu'on sait, c'est que toutes les solutions à petite magnitude vont contenir toutes les directions indépendantes de la variété des solutions. Alors qu'au contraire, lorsqu'on le fait avec la dissimilarité sinus, on voit que c'est beaucoup plus régulier. On voit qu'il y a trois sortes de courbes qui ont été identifiées. Ces courbes-là, elles correspondent exactement aux trois valeurs des paramètres. Et en fait, ce qu'on voit, bon, on ne voit pas sur l'image, mais faites-moi confiance, mais à chaque fois qu'il y a une croix, il y a un rond, ou je ne sais plus quel est le symbole que j'ai utilisé, ou un triangle, de sorte en fait que deux snapshots qui ne varient que par la magnitude sont exactement sur la même position. Et donc lorsqu'on fait un clustering là-dessus, bah, naturellement, en fait, on va regrouper des points qui sont indépendamment de leur magnitude. Et donc en fait, on peut avoir un clustering qui a du sens par rapport à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire distinguer les différentes directions indépendantes qui existent dans la variété des solutions. Donc là, c'est ce qui est illustré. Le fait que ça marche bien, c'est illustré dans ces courbes-là. Donc je vais les expliquer. Donc ici, par exemple, ce qu'on a fait, c'est on met en œuvre la POD en fixant un critère de précision par colonne. Et sur la ligne d'en bas, c'est l'inverse. On fixe le nombre de modes et on regarde la précision d'approximation. Donc là, par exemple, on fait varier le nombre de clusters. Donc s'il n'y a aucun cluster, donc si on essaie de faire une POD pour tous les échantillons d'un coup, ben on voit qu'on a un nombre de modes qui est un peu au-dessus de 25. Bon, ok, très bien. Et maintenant, si on augmente le nombre de clusters, donc on clustering la variété des solutions et on espère avoir des bases locales qui ont un sens de proximité directement sur la variété des solutions, ben si on le fait avec la norme L2, ben il se passe ce qu'on a vu là. En fait, dans toutes les solutions, il va y avoir un cluster qui va contenir toutes les directions indépendantes de la variété. Et en fait, on voit qu'il va y avoir un cluster qui aura un nombre de modes qui sera très élevé. En fait, continuer à rajouter des clusters ne fait rien gagner. On aura toujours un cluster qui sera problématique. Alors qu'au contraire, si on le fait avec la dissimilarité sinus, on a une belle décroissance. On arrive à gagner quelque chose. Donc, rajouter des clusters nous permet d'identifier des zones locales sur la variété des solutions qui sont effectivement en dimension réduite. Donc ça, c'est très important en pratique. Donc on voit que bah, ça marche pareil pour des précisions différentes. Et là, c'est pareil dans l'autre sens. Hein. Donc on fixe le nombre de modes et on regarde quelles sont les erreurs de projection qu'on a en faisant la projection orthogonale sur la variété des solutions en fonction du nombre de clusters. Et on voit qu'en rouge, donc c'est avec la dissimilarité sinus, bah, on arrive à avoir des précisions en augmentant le nombre de modes. En fait, augmenter le nombre de modes devient rentable puisqu'on arrive à avoir des erreurs de projection qui sont vraiment beaucoup plus petites, quoi. Donc ça, on l'a appliqué sur d'autres cas. Donc je ne vais pas les redétailler de façon aussi poussée, mais donc là, on l'a appliqué sur l'équation de Navier-Stokes incompressible 2D. Donc c'est même conclusion. Pour l'équation de la chaleur 2D, on peut faire les mêmes conclusions. On voit exactement les mêmes types de courbes. Et aussi pour un cas de mécanique des structures non linéaires, 3D, donc c'est rotation de cette espèce d'objet qui fait activer des zones de plasticité différentes. Donc en fait, alors c'est des cas qui sont un peu construits volontairement pour être pathologiques, mais on voit qu'on a quelque chose à gagner quand même pour tous ces types de physiques différentes, quoi. Voilà, alors en fait, après ça, c'est vraiment la mise en œuvre industrielle complète de tout ce qu'on a dit sur le cas d'aube de turbine qu'on a présenté tout à l'heure par Thomas Daniel, le doctorant. Donc là, il a mis en œuvre tout ça. Donc il a fait le clustering, donc c'est PAM camédoïde. L'hyperréduction, c'est... Alors pour le modèle réduit, il a utilisé ce que j'avais développé, hein, donc c'est l'empirical cubature méthode. Il a utilisé un classifieur qui est très simple, hein, régression logistique avec ElasticNet. Pour le GAPI surrogate, on est allé au-delà de la GAPI POD, on avait fait autre chose, mais ça c'est un détail. Et ensuite, là, ça utilise des codes, tous des codes open source qu'on a développés à Safrantech et qui sont disponibles. Et donc l'intérêt, vraiment, ce qui est vraiment important pour ce cas d'aube de turbine, c'est d'être capable de quantifier, en fait, d'avoir une idée de la durée de vie en fonction des variabilités en température que l'aube subit. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces aubes, elles sont situées juste après la chambre de combustion. Donc vraiment, et puis le chargement thermique, il est complètement déterminant pour la durée de vie de l'aube, mais il est mal connu, malheureusement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé tous ces développements pour faire une propagation d'incertitude de la méconnaissance du chargement thermique sur des quantités qui sont très liées à la durée de vie. Hein. Donc là, par exemple, c'est la contrainte plastique et le critère de von Mises. Et donc là, c'est sur des zones de l'aube qu'on a décidé comme étant des zones d'intérêt, que les ingénieurs des bureaux d'études nous ont identifiées comme étant des zones d'intérêt. Et donc là, dans ce cas-là, On a identifié des erreurs relatives de l'ordre de 1 à 2% pour un speed-up de 600, ce qui est vraiment super. Voilà, donc là, il y a toute la littérature. Et on voit, par exemple, que ça, donc c'est les différents scénarios de variation thermique que l'OB peut voir. Et on a le modèle haute fidélité qu'on a recalculé pour vérifier par rapport au ROMNet. Et on voit qu'au moins, à l'œil, il y a des structures complexes qui sont reproduites de façon très fidèle. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai présenté avant et le cours de Yvon. C'est ce que j'appelle la réduction de modèle physique, qui est un peu legacy, hein, donc c'est classique. Et en fait, donc, moi, ce que j'identifie comme étant deux axes sur lesquels les gens ont déjà beaucoup travaillé hein, pour étendre ces méthodes-là, c'est vraiment ce qui est difficile, c'est la variabilité géométrique, dans le sens où on ne peut pas simplement comparer deux échantillons. En fait, quand on fait une POD, là, derrière ce qu'on calcule, la matrice A, c'était la matrice de Gram ou la matrice de corrélation, ou on peut l'appeler comme on veut, mais c'est une matrice qui calcule une distance entre deux échantillons. Et si le support de ces échantillons-là, de ces snapshots, est différent, on ne peut pas faire le produit scalaire de façon simple. Donc Yvon avait présenté des méthodes de changement de variable, par exemple. Et après, il y a... est-ce qu'on peut s'extraire de l'hypothèse de compression de données linéaires ? La compression de données linéaires, donc c'est ce que je pense que c'est le cours d'après que Yvon a introduit très rapidement, en fait, ça nous permet d'appliquer directement la méthode de Galerkin sur la base réduite, sur la base des zeta ij. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'on aimerait bien pouvoir garder. C'est pour ça que dans la thèse de Thomas Daniel, on s'est dit on veut faire de la compression de données non linéaire, mais on veut quand même garder les avantages de la compression de données linéaire. Du coup, on veut faire un clustering de la variété des solutions. Et donc, il y a des gens qui se sont intéressés sur comment aller au-delà de cette hypothèse-là. Mais en fait, ça, le problème, c'est qu'on perd beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui ont fait des auto-encodeurs à base de réseaux de neurones, donc qui ont une approximation globale non linéaire sur toute la variété, mais on perd la méthode de Galerkin. Donc, écrire l'approximation est vraiment beaucoup plus compliqué que ce que c'est déjà là, quoi. Et ensuite, après, en fait, dans tout ce contexte de surrogate modeling, d'apprentissage de... on peut essayer de poser le problème de régression en grande dimension directement. On a vu tout à l'heure les méthodes tabulaires, où en fait on a des méthodes d'approximation statistique. Et en fait, maintenant, c'est extrêmement actif en ce moment. Les gens essaient de construire directement des régresseurs en très grande dimension, approcher directement les champs avec ces méthodes statistiques. Et là, c'est tout l'essor du deep learning qui est très actif en ce moment. Donc là, je vais présenter une autre... je vais aller rapidement... en fait, c'est comment faire pour apprendre les solutions de problèmes physiques sur des variabilités géométriques non paramétrées. Alors, comme j'ai introduit rapidement, le deep learning est très actif dans ce domaine-là. Donc, le fait d'avoir une géométrie non paramétrée, en fait, ça permet... c'est aller au-delà du fait d'avoir des mues, par exemple, comme on a vu ici. On veut pouvoir calculer l'inférence, c'est-à-dire l'approximation, sans connaître forcément à quelle mue notre configuration correspond. Ça permet, par exemple, de changer la paramétrisation géométrique une fois que le problème est entraîné. Donc voilà, donc nous, je vais passer directement là. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est une méthode à base de morphing et de processus gaussien qui consiste, alors on a différents échantillons qui ont différentes formes, donc ça c'est un cas très simple. L'idée c'était de faire un morphing sur une géométrie commune, donc là c'est le disque unitaire, ensuite de faire une projection élément fini sur une discrétisation de cette géométrie commune, donc un maillage donné du disque unitaire. Faire pareil pour les sorties champs d'intérêt. Donc là, pour les entrées, ce qu'on a fait, c'est sur les champs coordonnées des nœuds du maillage. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans un problème d'approximation qui a été réduit fortement par ces entrées et par ces sorties, et surtout dont la dimension est constante. Donc en fait, on retombe sur un problème tabulaire qu'on a vu en début de présentation. Donc là, vraiment, l'intuition derrière tout ça, c'est de dire, est-ce qu'on peut mettre en œuvre l'apprentissage de champs physiques avec des variations géométriques non paramétrées et de se ramener sur un cas très classique en machine learning. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc on utilise des processus gaussiens parce que c'est très connu, très efficace, et qu'aussi on a des formules analytiques pour l'incertitude de prédiction. Voilà, donc ça, on a appliqué ça sur... sur des datasets qu'on a fait à Safrantech, et on a comparé à deux méthodes de réseau de neurones à l'époque qui étaient state of the art, donc c'est le mesh graph net et les convolutions sur graph, et on voyait qu'avec notre méthode, on était beaucoup plus précis et aussi beaucoup plus rapide à entraîner. Je vais accélérer un peu pour qu'il y ait du temps pour la discussion. Donc là, ce que je peux dire, c'est que sur cette méthode-là, en fait, moi, ce que je voulais proposer, c'est d'avoir une méthode de machine learning, mais qui contient autant de pas déterministes que possible pour laisser le moins de choses possibles à apprendre à la méthode de machine learning. En fait, l'idée, c'est que si on pré-traite au maximum les choses, finalement, on va arriver dans un cas où le problème de machine learning va être de plus en plus facile. Donc, notre méthode, elle peut prendre en compte des maillages de très grande taille et on a les incertitudes de prédiction. En fait, mon intuition derrière tout ça, c'est qu'en fait, lorsqu'on veut faire du machine learning pour la physique et la conception de pièces mécaniques, en fait, nos problèmes, ils sont en dimension intrinsèque qui peuvent être relativement faibles. La dimension intrinsèque, ce serait le nombre de modes POD qu'il faudrait pour réduire nos objets d'intérêt. Mais même si on va au-delà de la POD, si on a des méthodes de compression de données non linéaires. Et ça, c'est très différent de ce que font les gens, par exemple, en computer vision ou où toutes les méthodes de deep learning sont développées, puisque eux, ils ont des objets qui peuvent être en dimension intrinsèque très importante. C'est pour ça que moi, l'intuition derrière tout ça, c'est que si le morphing il nous permet de reparamétrer le problème efficacement, ben, on va se retrouver vraiment avec un petit problème de machine learning dans l'espace latent qui sera très facile à approcher par des processus gaussiens, par exemple. Et donc, vraiment, la limitation de ces travaux-là, c'est le morphing. Bon, alors là, rapidement, pour faire un peu la pub, hein, on a participé à deux compétitions de machine learning. Qui était ouverte au public. Hein. Donc la première, c'était plutôt dans un contexte français, et on voit que donc on a fini premier avec cette méthode MMGP, alors que tous nos challengers, entre guillemets, tous les autres, ils ont tous essayé d'utiliser des différentes variantes de réseaux de neurones, dont des transformers, des INR, des MLP, etc. Et puis après, cette compétition, elle a été un petit peu modifiée et proposée à NeurIPS. Donc NeurIPS, c'est la plus grosse conférence de machine learning dans le monde. Et là, on a vraiment eu des challengers dans le monde entier. Hein. Donc on voit par exemple, le deuxième c'est Ant Research en Chine, et le quatrième c'est Texas University, et le troisième c'était Airbus. Et nous, avec notre petit modèle tout petit et très rapide à entraîner, on a encore fini premier. Donc là, c'est bon, c'est pour vous donner des illustrations de ce que ça donne. Et aussi, j'ai essayé de faire le modèle le plus simple possible. Donc j'ai pas fait de partitionnement spatial, pas de deep learning, on n'a pas hybridé avec la physique, on n'a pas utilisé le GPU, donc voilà, on s'est mis dans un cadre le plus simple possible. Donc pour lever les limitations de la méthode qui s'appelle MMGP, il y a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas longtemps, Yvon était président du jury d'ailleurs, qui est de Abbas Kabbalan, où en fait l'idée c'était de pousser cette méthode MMGP le plus loin possible en optimisant les étapes de morphing. Ces étapes de morphing, elles ont été optimisées de plusieurs façons. La première, c'est déjà essayer d'avoir un algorithme de morphing automatique pour faire le matching de forme, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'opération manuelle à faire et d'adaptation pour chaque nouveau cas. Donc ça, c'est ce qui a été fait par un algorithme qui consiste à résoudre une succession de problèmes élastiques, de déformations élastiques. Donc bon, il y a des petits détails techniques pour que ce soit très rapide. Et surtout, le plus important, c'est qu'en fait, il a pu écrire un problème d'optimisation très générique, de sorte à ce que le morphing qui est en cours de construction par cet algo d'optimisation, il va nécessairement vouloir faire matcher les formes, mais pas que. Il va aussi faire en sorte que nos champs qu'on cherche à produire, ils vont être transformés de sorte à ce que lorsqu'on fera une POD dessus ou une PCA, ben on obtiendra un nombre de modes minimal. Donc en fait, ça revient mentalement à essayer, moralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de dérouler la variété des solutions qui est très courbe, la rendre la plus plate possible. C'est ça quand je dis faire le morphing ou le changement de variable, hein, c'est pareil, de sorte à ce que après transformation, le nombre de modes POD soit faible. C'est exactement ce qu'il y a dans la courbe là. Après transformation, après morphing, pour un N donné, on veut être le plus précis possible. Donc c'est ce que moralement les travaux de cette thèse ont essayé de faire. Quoi. Voilà. Alors ça, je vais complètement passer. Parce que j'ai beaucoup rebondi sur l'exposé de cours. Alors, je veux juste terminer rapidement pour montrer tout ce qu'on fait dans la communauté open source. Alors, nous, à Safrantech, on essaie de pousser fortement sur l'open source et l'open data, de sorte à lier des collaborations avec les académiques et nos collègues industriels aussi. Donc là, je présente juste un projet qui est en cours en ce moment. En fait, ce qu'on essaie de proposer, c'est un modèle de données qui est vraiment commun pour tout ce qui est apprentissage pour la physique. Donc, on l'a appelé PLED, pour Physics Learning AI Data Model. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que la communauté scientifique machine learning, elle est très active. Il y a beaucoup de datasets qui sont publics et beaucoup de gens qui essaient de faire des compétitions pour entraîner leur réseau de neurones dessus et avoir des scores, etc. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que tous ces datasets, ils ont un format différent, et c'est impossible, si on a envie, par exemple, d'entraîner des modèles de fondation ou de tester sa méthode sur beaucoup de cas, c'est très difficile puisque les formats sont très dispersés. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est un standard qui est fortement basé sur le CGNS, de sorte à ce que tous les datasets soient exactement structurés de la même façon. Donc là, on a proposé 6 cas, les 6 de gauche, et là, on commence à récupérer des cas open source et à les convertir dans notre format plein. Ils sont hébergés sur Hugging Face. On voit que ça se présente comme ça. Hein. Donc, il y a sur Hugging Face, c'est très bien fait pour stocker des données avec un dataset viewer, on peut mettre des images et tout. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé des benchmarks sur nos 6 datasets qu'on a mis en public. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir vraiment plein de contributions externes. Alors déjà, le standard PLAID, il est utilisé par des collègues de Airbus, de Michelin, de Dassault Systèmes. Donc on commence à étendre notre standard à l'extérieur. Et ce qui est bien, c'est que dans ces benchmarks, il y a plusieurs gens qui ont proposé leurs solutions, notamment des gens de chez nous, des étudiants de chez nous, mais d'Airbus, des collègues aussi des chercheurs d'Airbus, et aussi des startups. Donc Augur, c'est une startup française avec laquelle on collabore, et PhysicsX, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une très grosse start-up anglaise qui est vraiment très très forte dans ce domaine. Et en fait, ce qu'on a vu, donc là vous voyez une soumission qui a été faite il y a quelques jours, le 16 février, et donc PhysicsX, ils sont premiers avec leur techno qu'ils ont appelé Transsolver, donc c'est une sorte de transformer sur maillage qui est vraiment très efficace. Et là, le MMGP qui était très performant en 2023, maintenant dans les différents cas, il est à peu près au milieu des soumissions, quoi. Donc on est dans la période où malheureusement le deep learning commence à nous rattraper, quoi. Donc là, voilà, ça, on a soumis ça récemment. Donc il y a beaucoup de collaborateurs. C'est tout le benchmark qu'on a fait sur ces use cases-là. Ouais, je vais m'arrêter là.
Très bien. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.